Bonjour à chacun. Une vérité incontournable s'est imposée à moi ce matin. Je connaissais tous les chants. Voilà, j'en dirai pas plus. Pendant mes vacances cet été, j'ai été amené à regarder une série dont c'était la première saison, une série qui m'a particulièrement intéressé puisqu'elle retrace la vie de David. David, ce berger devenu roi d'Israël, le roi qui fera référence par la suite. David qui reçoit dans la Bible un témoignage rare puisqu'il est dit de lui que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Je lis dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13, versets 13 et 14, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül vient d'être rejeté par Dieu pour avoir gravement désobéi à sa parole, et Dieu lui annonce par la bouche de son prophète, que son règne ne durera pas. Que le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur, qu'il a destiné à être le chef de son peuple, et cet homme, c'est David. Et nous trouvons le même témoignage rendu à David dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, Actes 13, verset 22. Il leur a suscité pour roi, auquel il a rendu ce témoignage, « J'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur. » David, un homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est quoi un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Quels sont les critères d'attribution de ce titre prestigieux? Qu'y avait-il donc dans le cœur de David pour qu'il reçoive un tel témoignage? Avant de considérer les caractéristiques de la vie de David qui pourraient expliquer pourquoi ce témoignage lui a été rendu, j'aimerais faire une remarque importante. Un homme et ou une femme, selon le cœur de Dieu, n'est pas quelqu'un de parfait. David, homme selon le cœur de Dieu, est loin d'avoir mené une vie exemplaire, une vie exempte de fautes ou de faiblesses. S'il fallait être sans défaut pour être quelqu'un selon le cœur de Dieu, alors David n'aurait jamais été appelé ainsi, et personne ne pourrait jamais l'être. David était, à n'en pas douter, un homme exceptionnel, un musicien et un poète hors pair, un fin stratège et un valeureux guerrier. David a remporté de grandes victoires, la plus symbolique est certainement celle contre Goliath. Mais il y a aussi toutes les autres, toutes les victoires de David sur les ennemis d'Israël, sur les Philistins, sur les Ammonites, sur les Moabites, et j'en passe. Tant et si bien que David a débarrassé le pays promis de tous ses ennemis, et il laissera à son fils Salomon un royaume prospère et en paix, un royaume qui servira à partir de là de référence au futur règne messianique. Oui, David était clairement un homme hors pair. Seulement voilà, malgré toutes ses qualités, malgré tous ses accomplissements, il y avait aussi chez David des choses bien moins glorieuses. Si David a été un homme exceptionnel dans bien des domaines, il n'est néanmoins qu'un homme pécheur, avec ses faiblesses, ses chutes, ses péchés. Un homme que nous trouvons dans la liste des héros de la foi, dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, et qui pourtant a connu de grandes incrédulités. Un homme qui a gravement fauté à plusieurs reprises. Un homme qui aura recours au mensonge devant le sacrificateur Achimélec pour s'en sortir alors qu'il est en fuite devant Saül. Un épisode de la vie de David aux conséquences tragiques, puisque Saül fera non seulement mettre à mort les 85 prêtres de Nob, mais il tuera aussi tous les habitants de cette ville en représailles. Un homme qui profitera de son pouvoir pour prendre la femme d'un autre et qui se couvrira les mains de sang en s'arrangeant pour que le mari trompé meure au combat. Une éclipse dans la vie de David qui va durer au moins 9 mois, puisque quand le prophète Nathan vient trouver David pour le confronter, l'enfant est déjà né et David ne s'est pas encore repenti. Ici aussi, les conséquences seront terribles. Non seulement l'enfant mourra, comme le prophète l'avait annoncé, mais l'épée ne s'éloignera plus de la maison de David. Un homme enfin qui, à la fin de sa vie, va faire un recensement que Dieu condamne. Le texte précise que David sait qu'il a péché. Un péché de David qui, une fois de plus, aura de tragiques conséquences, puisque dans tout le pays, de Dan à Beersheba, 70 000 hommes vont mourir de la peste, dit le texte à cause du péché de David. Voilà aussi qui était David. Celui dont l'Écriture donne le témoignage qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Et cela ne peut que nous interroger. Comment est-ce que c'est possible? Comment un tel témoignage peut-il être rendu à David à la lumière de tout ce que l'Écriture nous rapporte de sa vie? Pour répondre à ces questions, nous allons dans un instant nous attacher à déceler ce qui existait dans la vie de David pour que malgré tout cela, un tel témoignage lui soit rendu. En tout cas, une chose se confirme, une personne selon le cœur de Dieu n'est pas parfaite. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'encourage beaucoup. Ça m'encourage à veiller sur mon cœur, ça m'encourage à persévérer malgré ce que je trouve dans mon cœur. Ça m'encourage à toujours plus compter sur la grâce de Dieu. Qu'y avait-il donc dans la vie de David pour que malgré ses chutes, malgré ses mauvais choix, il reçoive un tel témoignage? En cherchant, j'ai trouvé 3 points qui m'ont paru essentiels. Sur les 3, je ne développerai vraiment que les 2 premiers. Le 3e mériterait un message à lui tout seul. Et je parlerai tout d'abord du cœur entier pour Dieu de David. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode de l'onction de David? Personne n'avait jugé bon de le faire venir devant le prophète. Seuls ses 7 frères aînés avaient été convoqués. Et en voyant l'aîné imposant, Samuel avait pensé à coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Mais Dieu va dire autre chose à Samuel. 1 Samuel 16, verset 7, il dit « Ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit le cœur. » Qu'est-ce que Dieu a vu ? Il a vu que le cœur de David était entier pour Dieu. C'est pas moi qui l'invente, je tire cela du premier livre des rois. 1 roi 11, verset 4, et puis 15, verset 3. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Et le même témoignage rendu un petit peu plus loin au chapitre 15 en parlant de Jéroboam. Le cœur dans la pensée hébraïque désigne l'homme intérieur. C'est le centre de contrôle de la personne, la tour de contrôle des émotions, de la volonté, de l'intelligence. Et donc nous comprenons par là que David avait soumis volontairement sa vie à Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Il avait soumis sa vie à Dieu, ses émotions, sa volonté, son intelligence. Son cœur était tout entier au Seigneur. Cela veut dire que quand David a chuté, quand il a fait de mauvais choix dans sa vie, ce n'est pas parce que son cœur était partagé. Ce n'est pas parce qu'il y avait de la duplicité dans son cœur. Non, c'est simplement parce qu'à ce moment-là, il a suivi les penchants de sa nature pécheresse et non ceux de l'Esprit de Dieu en lui. Le mot traduit par « entier » signifie tout simplement « complet ». Le cœur de David était complet pour Dieu ou complètement à Dieu. Ainsi, un cœur entier pour Dieu est un cœur sans partage. Un cœur où il n'y a pas de jardin secret, où Dieu n'a pas le droit d'aller, où Dieu n'est pas le bienvenu. Un cœur, une vie où je désire de tout mon cœur que Dieu règne. David possédait un tel cœur. Et c'est ce que Dieu dira à Salomon quand il se révélera à lui. 1 roi 9, verset 4, « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture pour agir d'après tout ce que je t'ai donné, si tu observes mes prescriptions et mes ordonnances, etc. » Oui, David possédait un cœur droit et intègre, un cœur qui désirait sincèrement suivre le Seigneur. Notons bien ici que pour qu'un cœur puisse être entier pour Dieu, il faut bien évidemment premièrement qu'il soit régénéré. Seul le cœur où l'Esprit de Dieu fait son œuvre de vie nouvelle peut devenir sans partage pour Dieu. Et l'Esprit de Dieu était bel et bien à l'œuvre dans le cœur de David, dans la vie de David, comme nous le lisons dans 1 Samuel 16, verset 3. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Un cœur entier sans partage est donc un cœur régénéré, un cœur où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, un cœur qui est transparent devant Dieu, sans zone d'ombre, un cœur intègre et droit. Et c'est aussi un cœur qui place les intérêts de Dieu en premier. Est-ce que vous vous rappelez de la première chose que David a faite quand il est devenu roi, quand finalement il a accédé à la royauté ? Il a fait revenir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. C'est la première chose qu'il a faite. Il a fait revenir l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. David cherchait à placer les intérêts de Dieu en premier. Il ne voulait pas que Dieu joue les seconds rôles dans sa vie. Et cela est particulièrement visible dans son désir de bâtir une maison à l'Éternel. David ne pouvait pas concevoir habiter un palais alors que Dieu n'habitait qu'une tente. Mais Dieu révélera à David que ce ne sera pas lui, mais son fils qui bâtira le temple. David avait trop de sang sur les mains, c'était un homme de guerre. Ce sera son fils Salomon, homme de paix, qui bâtira le temple. Mais par contre, David va passer la fin de son règne, une bonne partie de la fin de son règne, à préparer la construction de ce temple. C'est lui qui va rassembler tous les matériaux pour la construction. C'est lui qui va faire tous les plans de ce temple, selon ce que l'Esprit lui aura révélé. C'est lui qui va organiser le culte en Israël, les Lévites, les sacrificateurs, les chantres, etc. C'est lui qui va faire les instruments de musique qui seront utilisés dans le temple. C'est lui qui va écrire les textes, les psaumes pour l'adoration dans le temple, en tout cas une partie de ces psaumes. Tout ça pour dire, pour rappeler que David avait à cœur les intérêts de Dieu. Ils étaient pour lui une priorité. On pourrait encore relever ici que si David a combattu Goliath, c'était avant tout pour défendre l'honneur de Dieu qui était bafoué jour après jour par ce géant de Gath. Oui, David avait un cœur qui désirait donner à Dieu la prééminence. Alors oui, il n'y est pas toujours arrivé, mais c'était son désir profond. Puisse Dieu nous accorder un tel cœur. Un cœur, pour le dire, avec les mots du Nouveau Testament, qui cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La deuxième caractéristique de la vie de David, qui me semble expliquer qu'il soit appelé un homme selon le cœur de Dieu, c'est son humilité. David possédait un cœur humble, et cela est premièrement visible par les repentances de sa vie. Nous l'avons dit largement, David a commis de nombreuses fautes, mais à chaque fois, il s'est sincèrement repenti. Il est revenu sincèrement à Dieu. Ainsi, après son premier séjour à Gath, où il s'est un peu perdu, c'est le moins qu'on puisse dire, il écrit au psaume 34, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. » Ainsi, après son adultère avec Bathsheba, et le meurtre d'Uri, nous lisons, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel, contre le Seigneur. » Et vous savez que le psaume 51 est une vibrante prière de repentance de David suite à ces événements. Enfin, soulignons ce que David dit après son recensement coupable. De Samuel 24, verset 10, « David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit au Seigneur, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Oui, le cœur de David était humble, prêt à se repentir, même si cela ne s'est pas toujours fait du jour au lendemain. ce qui dit en réalité beaucoup plus de la patience de Dieu qu'autre chose. David possédait un cœur humble, et cela se voit deuxièmement dans son désir de faire la volonté de Dieu. Même si cela lui demandait en particulier de la patience, beaucoup de patience. Et on peut dire que David était un homme patient, en tout cas il l'a souvent été. Ainsi, il n'a pas cherché à régner avant la mort de Saül. Pourtant, il en avait la légitimité. Il en a même eu l'occasion concrètement à deux reprises. Deux occasions où il aurait pu tuer Saül. Saül qui était là, à sa merci. Mais il a choisi d'épargner sa vie. Pourquoi ? Parce que Saül était loin, alors loin, L'apostrophe, O-I-N-T, loin de Dieu. Et David ne porterait pas la main sur celui que Dieu avait choisi. David a patiemment su attendre l'heure de Dieu. Et il me semble qu'il est en ce sens un véritable modèle pour nous. Nous qui tellement facilement voulons tout et tout tout de suite. Nous qui tellement facilement manquons de persévérance dans notre vie de prière dès que la réponse de Dieu se fait un peu attendre. Nous qui tellement facilement passons par la fenêtre quand Dieu ferme la porte. Combien nous avons besoin de patience dans notre désir de faire la volonté de Dieu. Combien nous avons besoin de discernement devant tous les chemins possibles. Combien nous avons besoin de contentement pour ne pas nous précipiter. Combien nous avons besoin d'être convaincus que le chemin du Seigneur est toujours le meilleur, que sa volonté est toujours agréable, bonne et parfaite. C'est ce que Paul dit dans Romains 12. Il y a parfois dans nos vies de l'impatience, dans ma vie, je ne sais pas dans la vôtre, l'impatience, du mécontentement, de la frustration, et j'en passe. Il est bon que nous nous souvenions que dans le plan de Dieu, la patience accomplit toujours une œuvre de perfection en nous. Dans le plan de Dieu, la patience accomplit toujours une œuvre de perfection en nous. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit au chapitre 1 dans le contexte dont il est en train de parler des épreuves et il dit « Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite. » afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Oui, il y a un temps pour toute chose dans nos vies, et chaque étape a sa place dans le plan de Dieu. David était un homme patient, désireux de faire la volonté de Dieu, et cela traduit son cœur empreint d'humilité. Et puis David possédait un cœur humble et cela se voit troisièmement dans la confiance, dans la foi qu'il avait en Dieu. Une foi qui est bien souvent exemplaire. Pourquoi la foi de David traduit-elle son humilité? Parce que se confier en Dieu plutôt qu'en l'homme, se confier en Dieu plutôt qu'en ses propres forces, mais c'est une véritable marque d'humilité. Ce n'est pas du tout naturel pour aucun de nous de le faire. Et c'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu. C'est reconnaître que je n'y arrive pas sans lui. C'est aller à contre-courant de ma nature pécheresse orgueilleuse qui, depuis qu'Adam et Ève se sont affranchis de Dieu, pense pouvoir se passer de Dieu. Et pense être Dieu à la place de Dieu. Voilà notre nature pécheresse. David savait reconnaître son besoin de Dieu, sa dépendance de lui. Et si vous avez un doute, je vous invite à relire les nombreux psaumes de David qui le montrent clairement. La troisième caractéristique, la dernière de la vie de David qui me semble expliquer qu'il soit un homme selon le cœur de Dieu, c'est ce que j'ai appelé son cœur d'adoration. Comme je vous le disais en introduction, je ne vais pas développer ce troisième point parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire ici. Et puis je pense que si nous sommes un peu familiers des psaumes, je pense que nous sommes convaincus que David avait un cœur d'adoration. David aimait louer Dieu. Il n'y allait pas à reculons, il aimait le faire. Il aimait dire la grandeur de Dieu. Il aimait magnifier son nom. Il aimait se tenir devant Dieu. Qu'est-ce que l'adoration ? C'est là où il faudrait beaucoup développer, mais j'ai retenu deux choses qui me paraissent indispensables, que je mentionne rapidement, deux choses indispensables à la véritable adoration, celle qui vient du cœur. Et je crois que nous trouvons ces deux ingrédients chez David. Le premier ingrédient est de savoir reconnaître qui est Dieu, de savoir reconnaître qui il est véritablement, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa sainteté, sa justice, son amour. David savait qui était Dieu. Il savait s'en émerveiller. Il savait s'en réjouir jour après jour. Et ces psaumes nous le montrent en long, en large et en travers. Et le deuxième ingrédient indispensable du premier est de savoir se reconnaître tel que nous sommes devant Dieu. Pour véritablement adorer Dieu, je dois pouvoir porter un regard objectif, réaliste sur ma vie. Me reconnaître, me savoir pécheur, perdu, dépendant de la grâce de Dieu pour mon salut. David savait véritablement qui il était. Et ainsi, conscient de la grâce de Dieu dans sa vie, de la grâce de Dieu à son égard, il aimait remercier Dieu de tout son cœur. Et là encore, nous le voyons dans ses psaumes. Oui, David aimait louer, adorer Dieu, son Dieu. Alors, chers amis, c'est quoi un homme ou une femme selon le cœur de Dieu ? C'est tout ce que nous venons de dire, et bien plus encore, parce qu'on aurait encore pu rajouter certainement d'autres choses. Mais le plus important, après avoir entendu tout ça, qui pour beaucoup d'entre nous sont des rappels, le plus important à la fin de ce message, c'est en réalité la réponse que nous allons lui apporter, lui donner. J'aimerais vous en proposer une. Elle me paraît en tout cas être la bonne. La bonne parce qu'elle conjugue notre action et celle de Dieu, notre prière et notre besoin que Dieu transforme notre cœur et nous conduisent dans sa volonté. Alors, ça aurait été dommage de ne pas utiliser des paroles de David lui-même. Dans un de ses psaumes, vous les connaissez, c'est la fin du psaume 139. Et voici ce que David y écrit. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Que cette prière puisse être la nôtre ce matin. Laissons Dieu sonder notre cœur, sonder notre pensée, nos pensées. Laissons-le mettre le doigt sur ce qui doit encore changer. Et laissons-le nous conduire sur le chemin de l'éternité. Tout cela pour que nous soyons, pour que nous continuions d'être un homme ou une femme, selon le cœur de Dieu. Amen.